ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de mars qui est comme chaque année l'occasion de fêter la poésie à travers la manifestation nationale du Printemps des Poètes. Comme vous le savez peut-être, il a été décidé depuis quelques années de suivre l'ordre alphabétique pour désigner un thème. Alors après A comme ardeur, B comme beauté, C comme courage, D comme désir et E comme éphémère, nous voici arrivés à la lettre F. F comme frontière. Un thème d'actualité, bien sûr, et on pense immédiatement à la guerre en Ukraine, et plus largement à toutes les guerres, famines et misères dans le monde qui poussent des gens à s'exiler dans l'espoir de mieux vivre ailleurs, c'est-à-dire en Occident, et en l'occurrence chez nous, en France. Mais les frontières qui ont pour nous pratiquement disparu existent bel et bien pour tous ceux qui viennent frapper à la porte de l'Europe et qui risquent leur vie pour cela. Outre les frontières entre les États, ce thème peut être décliné de multiples façons, comme vous allez vous en rendre compte, à la lecture des textes que j'ai choisi de vous faire entendre aujourd'hui. Des textes qui appartiennent tous à une anthologie publiée chaque année, en mars, par les éditions du Castor Astral. Cet ouvrage, intitulé « Ces mots traversent les frontières », réunit 111 poètes. Et leurs textes sont pour la plupart des inédits. Jean-Yves Rezeau, qui en a écrit la préface, dit entre autres choses ceci. Si cette anthologie parle volontiers de politique et de territoire, de bombes et de tankers, d'exil et d'immigration, elle parle surtout de toutes sortes de frontières extérieures et intérieures, sociales, mentales, corporelles, imaginaires, etc. Une affaire de mémoire et de vécu où la société elle-même serait un champ de bataille. La poésie apparaît alors toujours plus nécessaire, tel un espace de liberté à préserver, à conquérir, à partager surtout. Il y aura aussi un fil rouge au cours de cette heure. Il s'agit d'acrostiches sur le mot « frontière ». Je précise qu'un acrostiche, c'est une forme de poésie où à chaque lettre d'un mot, on fait correspondre une phrase ou un autre mot, donc toutes les lettres de frontière. Donc ces acrostiches ont été écrits par 7 jeunes hommes détenus au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, un groupe qu'il m'a été donné de rencontrer récemment sur l'invitation d'Élodie Gadiolet, directrice de Radio B. Et vous allez rapidement vous rendre compte que si les mots traversent les frontières, comme le dit l'anthologie, ils peuvent aussi traverser les murs d'une prison et être, pour les poètes, un espace de liberté, prouvant ainsi que la poésie est présente partout et intéresse tout le monde. Donc je tiens à les remercier particulièrement pour leur contribution à cette émission. Voici, pour commencer, les deux premiers de la liste, les deux premiers acrostiches. F, foncer. R, réouverture. O, ouverture. N, nationalité. T, tentative. I, identité. E, expatrié. R, rapatrié. E, Espagne. S, sécurité. F, fabuleux. R, récit. O, outrageant. N, naturalisé. T, texte. I, issu. E, essentiellement. De, R, rage. D, E, être. S, surpeuplé. Il est temps maintenant de partager avec vous les mots des 15 poètes que j'ai retenus parmi les 111 de l'anthologie, accompagnés de musiques qui vont elles aussi traverser les frontières. Commençons par ce chant populaire estonien classé dans les chants runiques, hérité d'une tradition orale multimillénaire. Et celui-ci a pour titre « La création », tout un programme.
Stop.
Merci aux trous dans les grillages. Merci aux portes qu'on ne ferme pas, aux postes de douane abandonnés, aux chutes des murs, aux portails sans serrure. Merci aux porosités, aux correspondances, à l'absence de dualité, aux traits d'union, aux réunions. Merci aux envolées, aux échappées, aux rites de passage, aux enlacements, aux étreintes, aux voyages sans retour. Merci aux clés perdues, aux livres inclassables, aux brèches, aux failles, aux confins, aux bords, aux bouts. Merci aux parages, aux lisières, aux rivages, aux percées, aux trouées, aux accès autorisés, aux entrées libres, aux fleuves sans barrage, à l'eau qui coule, à toutes les circulations. Merci à la succession des cycles, au mouvement des spirales, aux enchevêtrements, à l'éternité de la lumière, à l'infinité des galaxies, des galeries, des racines, aux vertiges des labyrinthes, aux paroles ininterrompues, aux horizons lointains, aux horizons dans les maisons, Merci à ce qui se déploie, se défie, se relie, se rejoint. Merci aux rencontres improbables, à la confusion des sentiments, au mélange des genres, au mariage de cœurs. Merci aux migrations, aux traversées, aux transhumances. Merci aux volets ouverts, aux terrains mal délimités, aux droits de passage, aux abattements de cloisons, aux rideaux de plumes, aux contours flous. Merci aux histoires sans fin. Merci à Alban Gelé pour ce premier texte qu'elle place délibérément à l'opposé de l'idée de frontière, prouvant en cela que nous ne manquons pas de mots pour dire l'ouverture et la tolérance. Reste à leur donner chair à ces mots-là. Un peu dans la même veine, ce texte de Jean-Pierre Siméon, issu d'un recueil intitulé « Sans frontières fixes », paru chez Chêne Éditeur en 2001. Bienheureux les fleuves qui n'ont pas de frontières, et bienheureux les vents qui sautent les murailles. Ils sont du pays où ils respirent. Bienheureuse la nuit que partout on accueille comme une amie de toujours. Et bienheureux le chêne qui partage son hasard avec le tremble et l'églantier. Ah, faites-moi un homme comme une rivière, comme un vent, comme un arbre, jouissant du droit du ciel, citoyen du songe où son regard le pose. Pour les deux auteurs qui vont suivre, il va s'agir de la frontière dans ce qu'elle a de plus mortifère, à savoir la mer lorsqu'elle engloutit des vies, les vies des exilés ou des migrants, comme on les appelle. Voici donc deux textes inédits, le premier de Adeline Baladacchino et le second de Olivier Barbaran. Rien d'autre n'est frontière. Ce que le désir dit de l'envol est l'envol de la mer. Ce que la vague dit du reflux, ce que la plage dit des corps qu'elle ne ramènera pas. Tout ce que l'eau dit de ce qui flotte en elle est les voiles de ce qu'elles emportent et les ports de ce qu'ils ignorent. Rien d'autre n'est frontière. Ce que la nuit dit du nuage est le nuage de la lune. Ce que l'étoile dit du ciel, ce que la lumière dit des corps qu'elle ne traversera plus. Tout ce que le temps dit de ce qu'il épouse est la joie de ce qu'elle inonde et les îles de ce qui les submerge. Rien d'autre n'est frontière. Ainsi de ce qui nous pousse vers la porte et de la porte vers la fenêtre mal ouverte, un volet claque sous l'orage, de ce claquement surgissent les monstres, tout ce qui nous enferme et nous dresse à l'intérieur de nous-mêmes, debout sur la digue et dos au vent. Rien d'autre n'est frontière. les noms sont toujours pour les autres. Vous n'avez que votre origine. Un Érythréen, un Soudanais, un Rom, même les stèles sont anonymes. Seule varie la couleur de l'eau, bleu d'azur ou la Manche noire et glacée. Pendant ce temps, nous écoutons le décompte, les agonies qui passent mieux au compte-gouttes. Un jour, l'une, un jour, l'autre. Nous écoutons. Quelquefois, plus rarement, nous voyons les corps sous les housses, oranges ou blanches. Nous écoutons le silence qui troue les bavardages, l'air un instant plus lourd, honteux, du sel pour rien, des larmes dans les cils. Ils sortent des pays où le sable boit le sang. Cela va vite. À moins de s'appliquer, on n'en voit rien. Ils ont fui les pays brûlants où ne brille plus guère le soleil. Des fumées le cachent. Comme il est de plomb, c'est pratique. On vit, on meurt, à l'ombre des poussières remuées. Incroyable ce que produisent de nuages un immeuble qui tombe, une maison qu'on abat. Ils ont traversé des mers dans des coquilles de noix, leur plastique multicolore sur des remous d'azur. En cas de naufrage, le bleu éblouissant avale les corps d'un coup. Le bel été de l'eau n'est troublé qu'un instant. Ceux-là dont je parle ont fini cependant par toucher au pays des brumes vraies, des briques qui tiennent aux maisons, des mers grises. Ils ont bâti des cabanes avec des débris fragiles, comme pour des goûters d'enfants. Quand sont passés les bulldozers, ils ont pris du fil et des aiguilles. Leurs lèvres, depuis, ont la beauté des yeux de Modigliani. Bouche sacrifiée. Mare Nostrum, plein soleil sur le métal bleu quand le miel des corps désirables se découvre une mer arable dont le sable est un blé en feu. Le morceau que vous venez d'entendre provient du premier album de Bijan Chemirani qui s'appelle Gulistan, Jardin des Roses. D'autres albums suivront, notamment ceux du trio Chemirani. En effet, ce musicien iranien est souvent entendu en trio avec son père et son frère, tous trois joueurs de zarb et autres instruments de percussion. L'émigration ne date évidemment pas d'aujourd'hui. Il y a plus d'un demi-siècle, c'était les Espagnols qui fuyaient le franquisme. Pierre Soletti a écrit un poème qu'il dédie à la mémoire de ses aïeux, et de leurs Pyrénées qu'ils ont franchies pour rester libres, et plus largement à la mémoire de tous les réfugiés. Puis vous entendrez celui de Vénus Kurigata, qui parvient à exprimer en peu de mots et avec beaucoup d'émotion tout le tragique de la guerre. J'ai plié les montagnes en quatre, rouler les rivières et les ruisseaux, tous nos baisers secrets sous les cèdres et les sycomores, embarquer chaque brin d'herbe, chaque saison disparue. J'ai emporté toutes les montagnes avec moi. J'ai plié chaque sommet dans un mouchoir de neige, recourbé chaque pic, chaque cime, remisé chaque sentier d'entre les arbres et les rocs. J'ai emmené les montagnes en moi, rembobiné ma langue, rangé mes pas sous scellé pour qu'ils ne rebroussent pas chemin. J'ai pris mon courage à deux mains. Je ne reviendrai pas sur les toits de chez moi, voir loin au jour le jour. Je suis sans souliers. J'ai perdu les pédales, les manettes, les leviers. Je vais à pied, loin de tout. Je garde le goût de mes montagnes. Il pleut dans la bouche du canon et de l'homme allongé sur la chaussée. La pluie a ramolli la lettre dans sa poche. Où es-tu, mon amour ? L'arbre blanc fait signe au char de s'arrêter, mais le char a une autre priorité, détruire une ville avant la nuit. Il pleut sur les vitres de la femme qui écrit « Où es-tu, mon amour ?» Dieu de la pluie, pourquoi n'as-tu pas une bassine pour tremper le sang du linge et un basilic pour la femme qui continue d'écrire « Où es-tu, mon amour ?» Seul mot qu'elle sait écrire. Voici maintenant deux nouveaux acrostiches. F, folie des grands. R, ruban de pays. O, orgueil de conquérant. N, nom de contrée. T, tactique politique. I, ineptie de l'histoire. E, éveil patriotique. R, retour aux origines. E, éveil national. Front sur la mer, je m'en vais sans me retourner. Rentrer un jour avec fierté et sécurité. Oppresseur sera vaincu avec bravoure et humilité. Nul ne pourra m'enlever l'amour de mère patrie. Toi, mon peuple, tu le seras et le resteras à jamais. Il nous accueille avec respect et solidarité. Éphémère, j'espère, sera mon nouveau toit. Revivre ou survivre dans ma nouvelle patrie. Et je repartirai un jour dans mon pays. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mot « frontière » ? Qu'est-ce que la notion de frontière produit en termes de comportement humain ? C'est la question que se sont sans doute posées les auteurs que vous allez entendre maintenant et à laquelle ils ont tenté de répondre, ou tout au moins de poser plus précisément. Pour commencer, deux poèmes de Jacques Darras, extraits d'un cycle autour d'une rivière côtière de la Manche. Le recueil est intitulé « Vanneck et les rivières, dont la Maille ». La musique, elle, est celle du trio Joubran, trois frères palestiniens qui jouent du oud, et leur album s'appelle « Randana ». Qu'est-ce qui nous fait tellement aimer une frontière ? Pourquoi ce tremblement au moment de la traversée ? Comme lorsque vient le moment de conclure l'acte amoureux ? Comme lorsqu'on refoule l'air au fond de la poitrine pour laisser venir à soi l'émotion des deux corps ? Comme lorsque l'on s'éloigne courtoisement pour permettre aux chairs de débattre ? De marquer leur territoire animal. Comme s'il y avait terreur dans territoire. Comme s'il y avait terreur dans territoire. dans le mot « terre ». Arrive le moment de l'entre-deux. Curieusement s'opèrent tout ensemble trêve, combat. Curieusement alors les deux amants cessent chacun de s'appartenir. Chacun l'un à l'autre révélé. Il y a quelque chose de semblable dans le passage d'une frontière. L'histoire de la terre est histoire d'amour. L'histoire de l'amour que la terre a pour elle-même, que l'on nomme géographie. L'histoire de tout amour véritable est histoire de crainte, en effet. Tout amour véritable est crainte de l'amour. Tremblement de crainte que l'amour éprouve au moment décisif, au moment d'abandonner la terre de son propre corps, au moment de la plus grande maîtrise, du plus grand abandon. Nous n'avons d'autre crainte en vérité que celle de l'amour, que de savoir où passe la frontière de l'amour. Où passent les lignes amoureuses entre femmes, hommes. Que de savoir où les lignes entre les pays doivent être tracées. Notre histoire, notre incapacité à nous maintenir dans l'entre-deux. Notre histoire, une histoire d'amour incertaine. Nous craignons depuis toujours de ne pas être à la latitude de l'amour. L'écriture des frontières en pointillé sur le sol est l'alphabet de la folie. L'écriture de la folie s'écrit par ligne discontinue. La ligne se compose d'un tiret suivi d'une interruption. La folie est dans l'interruption de la ligne. La folie est dans la continuité continue des interruptions. L'interruption dit l'intermittence de la présence. Nous ne sommes pas toujours nationalement présents. Nation, c'est absence à nous-mêmes. C'est oubli suspensif de nous-mêmes. Dès que quelqu'un touche nos pointillés, cependant, touche à la clôture électrique alternative, notre frontière. Quel choc, électrochoc, vraiment, quelle électrolocution. Nous qui vivions pointillés, nerveux dans notre quiétude, voici que nos frontières connectent leurs synapses terminales. Voici que notre schizophrénie patriotique latente se met en position éveil. Communication instantanée entre les deux hémisphères. Nous voici singes entrant expérimentalement dans leur laboratoire. Nous enfilons la camisole blanche portant aux épaules l'étiquette « Nation ». Nous voici agités de sursauts galvanismes de décharge. Nous voici prêts à sauter à la gorge du batracien d'en face. Kent, chanteur et fondateur du groupe Starshooter à la fin des années 70, est aussi écrivain. Voici le texte que lui a inspiré le mot « frontière ». Ouvert, fermé, fermé, ouvert sont nos esprits, tels des frontières, selon l'humeur et les manières, ouvert jusqu'à la prochaine frayeur, jusqu'à la prochaine colère, le prochain prêche identitaire qui nous dénommera justicier ou bien bouc émissaire. Maille à l'endroit, maille à l'envers, revient demain le monde d'hier, le long de la moelle épinière. On s'y croyait, s'imaginait papillon devenir, voletant par-delà les contraintes fanées, par-delà les travers échaudés, la nature à nos pieds retrouvée. C'est râpé, râpé, râpé. C'est le retour au sérail de l'espérance amochée, derrière un rideau gris ferraille sous un ciel bleu cafard. On rabaisse la barrière du vieux poste douanier. On observe en face les mouvements de troupes, les colonnes de blindés et devant eux les files d'exilés traînant dans des valises fatiguées, leur conscience hagarde, en randonnion sous la mitraille des injonctions. Abdelatif Lahabi, écrivain, poète et traducteur, est né et a vécu au Maroc jusqu'au milieu des années 80, avant de s'exiler en France. Il s'interroge lui aussi sur la notion de frontière et de territoire à travers cette courte fable. Dans ma rue. Arrêtez-vous, me crie l'intrus. Si vous avancez d'un pas, vous violerez mon territoire. Et alors, je ne donnerai pas cher de votre peau. L'intrus, un malabar en treillis, n'a pas l'air de plaisanter. Que m'arrive-t-il ? Je venais de sortir de chez moi et comme le voyant lumineux était vert, je m'apprêtais à traverser pour aller acheter une baguette de pain. N'y pensez même pas, me crie l'intrus, comme s'il lisait dans mes pensées, avant d'ajouter « La guerre, c'est la guerre ». Devant le déséquilibre des forces, je ne pouvais qu'obtempérer. J'ai donc reculé et suis rentré chez moi. Mes facultés mentales ont bien diminué ces derniers temps, mais tout de même, je ne savais pas que la guerre s'était rapprochée à ce point et que le milieu de ma rue était devenu une frontière. Et dans un petit éclair de lucidité, je me suis posé cette question. Étant donné les circonstances, dans quel camp suis-je ? Hervé Letellier, prix Goncourt 2020 pour son roman « L'anomalie », est aussi poète et membre de l'Oulipo, ouvroir de littérature potentielle, qui est, rappelons-le, un groupe de recherche littéraire français fondé en 1960 et qui a compté dans ses rangs Raymond Queneau et Georges Perec pour les plus connus. L'Oulipo est avant tout un engagement à la créativité et ses membres font souvent appel à l'humour dans leurs textes. Ainsi en va-t-il de ce texte d'Hervé Letellier, composé de 40 articles dont j'ai sélectionné une bonne moitié et au fil desquels il s'interroge sur le mot « étranger ». Ce texte s'intitule « Des nouvelles de l'étranger », bien qu'étranger à la catégorie « nouvelles ». « Étrange » pourrait être un verbe du premier groupe. Si c'était le cas, il se déclinerait ainsi « j'étrange, tu étrange », etc. Que peut-on bien étranger ? Je l'ignore. Sur un moteur de recherche, la première référence à « étranger » est « L'étranger de Camus ». Aujourd'hui, maman est morte. C'est Linky Pitt. Je crois que je le sais depuis presque toujours, ou peut-être hier, je ne sais pas. Autre référence, Français de l'étranger. Combien de temps à l'étranger doit passer un Français de l'étranger pour, de Français, devenir un étranger ? Ce temps est-il plus court que celui qu'il faut à un étranger de France pour devenir Français ? Tous les Français, si l'on remonte assez loin, n'ont pour aïeux que des étrangers. Le mot « aïeul » me semble très étranger, mais moins que le mot « glaïeul ». Étranger, 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 étranger. Répétez le mot jusqu'à ce qu'il apparaisse étranger. On trouve aussi le corps étranger. Dans un poème où il est question de deux trous rouges au côté droit, on trouverait dans ce soldat, jeune, tête nue, deux corps étrangers. Les lunettes que je porte sont un corps étranger. Le monde me semblerait plus étranger encore sans elles. Nos organes contiennent l'équivalent d'une balle de tennis de corps étrangers. Bactéries, virus, faune et flore. Ces corps étrangers sont nos amis, au contraire du cancer qui est un bout de soi-même à la croissance anarchique. L'étranger peut donc être notre ami, l'intime, notre ennemi. CQFD. Parler les langues étrangères permettrait de n'être étranger nulle part. C'est faux. Je parle anglais, je me sens étranger à Londres. Je ne parle pas italien, je suis chez moi à Naples. Qui disait qu'on gardait encore une once de patriotisme lorsque, à l'étranger, face à des compatriotes mal élevés, on a honte d'eux ? De quelque pays que l'on soit, le monde compte encore bien plus d'étrangers. Pour certains, l'univers n'est fait que d'étrangers. Prenez les Luxembourgeois. S'il y en a deux dans le même Los Angeles-Chicago, ils sont de la même famille. Je me souviens de Frank Sinatra. Strangers in the night, exchanging glances, strangers in the night, etc. La suite. Stranger, en anglais, veut dire étranger. Le S du vieux français étranger a donné l'accent d'étranger. Le stranger anglais est soudain moins étranger. Foreigner aussi signifie étranger, mais le foreigner vient d'un pays différent. Le stranger est celui que l'on ne connaît pas, l'un est plus étranger que l'autre. L'étranger de Camus a été traduit une fois par « the outsider ». Sans oublier « alien », à jamais associé à un extraterrestre carnassier, quand il signifie simplement « étranger ».« I'm a legal alien in New York », chante Sting. On peut devenir quatre étrangers anglais pour un étranger en français. Mais le peuple pêcheur du fjord d'Ondeske, en Norvège, possède, lui, 9 mots pour désigner l'étranger. Celui qui parle une langue si mystérieuse qu'on ne sait pas qui il est. Le sujet d'un pays à qui l'on fait la guerre. Le sujet d'un royaume allié. Celui qui vit dans un autre fjord. Un type du village voisin. Celui qui habite le même village, celui qui vit dans la même demeure, l'étranger de la même famille, et enfin, surtout, le 9e, l'étranger qui occupe le même corps. On peut devenir l'ami des 8 premiers. Ce qui me plaît, ce n'est pas que tu me sois étrangère. Non, j'aime que quelque chose en toi résiste. Refuse de se familiariser, demeure invinciblement étranger. Quelque chose qui fait que je me frotte toujours face à toi, à de l'étranger, à quelque chose de mystérieux et d'irréductible, de jaillissant et de joyeux. Quelque chose qui serait à l'amour ce qu'est la couleur d'une langue étrangère dans la langue maternelle. Un « je ne sais quoi », ce mot français passé dans presque toutes les langues étrangères. Ta démarche, certains gestes, me sont ainsi par instant étrangers. La courbe de ton sein, de ton épaule, par instant étrangère. Ta voix, au bout du téléphone, de temps en temps, étrangère. La sinuosité subtile de ta pensée, si étrangère à mon propre cheminement, et pourtant plus claire et plus vive. Il n'y a pas de mot en français pour désigner le fait d'être étranger. Pas d'étrangérité. Préserver de l'étranger en nous, c'est peut-être le secret. S'il est une musique qui traverse les frontières, c'est bien celle-ci, celle des tziganes. Ceux que vous venez d'entendre sont originaires de Roumanie, d'un petit village non loin de Bucarest, et le groupe s'appelle Taraf de Haiduc. Deux acrostiches maintenant, toujours avec le mot frontière. F, France aux Français, ou fierté de nos origines. R, région magnifique. O, ordure qui détruit nos terres. N, nation patriotique. T, terre de nos ancêtres. I, idiot qui nous dirige. E, équipe nationale qui nous représente. R, rage de vaincre. E, envie de liberté. S, sang qui circule dans toutes les frontières. Faut de la distance pour notre cœur. Rien que le désir de l'amour entre nous. Oui, c'est toi que j'aime pour l'éternité. Non, nous ne sommes pas des animaux pour boire la tasse. Tenir le manche pour évacuer l'énorme tache sur le sol. Idée de voir la vie en rose, je ne toucherai plus ta lèvre inférieure. Énerve-moi, s'il te plaît, j'ai envie de ton bonheur sur ma vie. Rire au plus haut pour descendre au plus bas. Élever ta chair pour manger la viande sur moi. L'idée de frontière se traduit dans l'espace, mais aussi dans le temps. C'est ce rapport que Bruno Mabille met en mots dans ce texte qui ouvre sur l'infini et s'appelle « L'amour des idées ». J'aime l'idée que la vie suive le cours d'une dérive naturelle, allant de possible en possible et créant elle-même son avenir. 2. J'aime l'idée que l'univers soit fini, mais sans bord, telle la Terre dont on peut faire le tour, sans jamais en trouver la limite. 3. J'aime l'idée qu'il y ait eu un temps d'avant le temps, d'avant l'origine. Un passé immémorial qui ne fut jamais présent, juste en latence. 4. J'aime l'idée que tout être avant d'exister ait été en puissance Et donc, depuis l'origine, depuis le Big Bang, si c'est ainsi qu'on l'appelle, je l'ai moi-même été. 5. J'aime l'idée que l'on se souvienne du passé parce qu'il a été un jour présent et que l'on se projette dans l'avenir parce qu'il sera un jour présent. Et donc, que ne nous soit donné qu'un seul temps à vivre, le présent. 6. J'aime l'idée que ce qui a eu lieu ne puisse pas ne pas avoir eu lieu et que tout ce qui a été fait ne puisse être effacé. De sorte que, dans l'espace illimité et le temps éternel, ma vie aura compté. 7. Qu'est-ce que vous faites du temps passé dans un train, de cet entre-deux, ce temps entre parenthèses? Vous restez scotché à votre portable? Vous lisez? Vous dormez? Ou, plus simplement, vous ne faites rien? Antoine Mouton, les personnes qui ne font rien dans le train. Certaines personnes sont délicates. Elles s'endorment dans les trains. Elles retirent leurs chaussures pour s'allonger. Elles se contorsionnent sur les fauteuils trop fermes. C'est toujours très étroit, mais elles trouvent une position à peu près tenable et s'y tiennent. Elles laissent le soleil leur brûler les joues à travers la vitre et leurs yeux se ferment doucement. Et elles rêvent. Et leurs rêves traversent les paysages. Et la nuit vient sur le pays. La nuit brûle à travers la vitre. Les villages sont minuscules, le wagon est sous hypnose. Les gens qui ne dorment pas sont en train de lire. Lire les rend très beaux. Mais les personnes les plus belles sont celles qui ne font rien, qui ne somnolent même pas, qui n'ont pas eu l'idée d'ouvrir un livre, qui sont assises sur leur fauteuil et qui laissent la nuit se poser sur le pays traversé. Celles qui croient en l'immobilité comme en la vitesse. Celles qui ne cherchent pas à se distraire du voyage. Celles qui sont suspendues à l'arrivée. Celles qui pensent à la vie. Celles qui profitent d'être assises dans un train pour penser à ce que la vie leur a fait. Et elles se voient aller. Elles se voient aller quelque part. Elles se demandent si elles sont heureuses et ce qu'il s'est passé pour qu'elles soient dans ce train à penser à la vie. Ce qui les a conduits à se laisser conduire ailleurs. Elles ne pensent pas à la vie tous les jours. À bord d'un train, c'est plus facile. Elles ne prennent pas un train par jour. D'habitude, c'est la vie qui pense à nous. Ou bien elle pense pour nous. On ne sait pas. On n'a pas encore saisi la différence. On en voit les effets, c'est tout. On en voit les effets par-dessus le paysage, à travers la vitre. Et dessus, le reflet, ce visage, moi. Je ne dors pas, ni ne lis, j'observe ma vie. Je me demande ce qu'elle aurait pu être, ce que j'aurais dû faire pour dormir dans le train au lieu de penser, pour ôter mes chaussures et m'allonger avec délicatesse du mieux possible et laisser mes pieds flotter dans le couloir, un peu plus haut que ma tête, et m'adosser à la nuit, au pays plein de nuit, et rêver avec la même poignante délicatesse que cet autre, et cet autre, et cet autre, et cet autre encore. Cette bande de délicats, allongée parmi les lecteurs et les brutes, traversant des hameaux sans nom que la nuit cache. Les brutes qui pensent, qui n'arrêtent plus de penser en cherchant leurs yeux dans la vitre, qui s'éprennent de leurs pensées et qui ne laisseront plus jamais la vie les conduire là où ça s'arrête. Plus jamais. Frontière sociale, cette fois, entre celles et ceux qui ont pris le train de la réussite, pour rester dans la métaphore du train, et les autres qui sont restés en rade. Voici un texte de Stéphanie Vovor intitulé « À mes sœurs ». c'est pour les filles dont le trait d'eyeliner est mieux tracé que l'avenir. Celles qui sont déjà ratées avant d'avoir mis un pied en grande section de maternelle. Celles qui n'ont pas su rectifier le tir et ne prononceront jamais de grands discours lors d'une remise de diplôme, comme quoi elles sont le pur produit de la méritocratie et blablabla. Celles qui ont la flemme, les paresseuses du fond de la classe, qu'on n'a pas envie de se coltiner parce qu'elles ralentissent le groupe. Celles qui refusent de faire un stage de 80 heures par semaine, car leur but dans la vie, c'est pas avoir une résidence secondaire et peut-être une autre après. Celles qui ont mal et à qui on répond qu'elles se plaignent trop, qu'il serait bon d'arrêter de s'écouter, que ça va bien se passer. Celles qu'on interpelle dans la rue pour leur ordonner de sourire parce que c'est plus joli. Celles qui se disent souvent qu'un truc colle pas, qu'elles sont éveillées au sein d'un rêve qui n'est pas le leur. Celles qui parfois sont tout comme sidérées dans leur tête, ont le corps qui se fige, restent pétrifiées dans leur lit et murmurent des prières pour ne pas en arriver au point de s'uriner dessus. Celles noyées émotionnellement. Celles chez qui la peur a tout inondé, au point qu'elles ne se sentent plus capables de penser, encore moins d'écrire. Celles qui déconnent à bloc. Celles qu'on traite de candidates au viol dans la rue. Celles qui ont la cervelle rongée de haine. Celles qui matent des films d'épouvante chaque soir pour tenter d'oublier que le plus souvent, l'horreur est à l'intérieur de la maison. Celles qui ne peuvent pas affronter le monde sans cacheton. Toutes celles qui sont un brasier. Frontières économiques, frontières entre exploiteurs et exploités, avec ce poème dans lequel Marie-Hélène Voyer trace le destin implacable de ces allumettières qui se sont tuées au travail. Nous étions phalènes vivantes, perdues dans les brumes du siècle. Nos joies et nos ombres se confondaient dans les heures bègues des machines et des fabriques. Nous étions droites et besogneuses, malgré les quintes et les toux, les émanations de phosphore et les combustions accidentelles. Nos mains de pénitentes constellées de brûlures valsaient leur valse de mains insoucieuses du mal qui nous rongeait déjà. Entre chiens et loups, nous sortions chantantes, congédiant l'usine de nos pas vifs. Quelque chose de phosphorescent rôdait dans nos souffles, auréolait nos visages de lueurs irréelles. Nous étions lumineuses dans la nuit noire, comme des vierges surprises par leur propre apparition. Tout a commencé par un élancement diffus, nos sourires assiégés par un sort imprécis. Peut-être nos dents malades avons-nous pensé entre les douleurs pulsantes. Bientôt les fièvres, les aphtes, les sangs étranges, les muqueuses à vif, les chairs pourrissantes. Quand nos visages se sont affaissés comme des fruits rongés, nos mères ont fermé les volets, retenu entre leurs mains et leurs sanglots le désastre de nos mâchoires. Les médecins ont parlé de nécrose naissante aux grands patrons venus voir de leurs propres yeux la grâce impitoyable de nos faces tordues. Charitables, ils ont planté des rosiers sauvages dans nos têtes béantes, puis enterré nos corps avec la fer tout autour de l'usine. On nous appelait les incandescentes, les lumineuses, les petites filles aux allumettes. Nous sommes femmes d'une même douleur, filles d'une clarté confisquée. Nous sommes feu les défigurés. Alzire, Jeanne, Rose-Ange, Marie, Georgina, Thérèse, Delphis, Léonie, Rosemonde, Lucienne, Simone, Laura, Germaine, Marcel, Stella, Violette, Adrienne, Rose-Anne, Berthe, Carmen, Désolance, Eugénie, Anastasie, Madeleine et Malvina, et tant d'autres encore, dissimulant sous le crêpe noir de la pudeur et les voilettes de l'oubli, l'image brodée de notre souffrance. Septième et dernière acrostiche. Fascinante est la vie pleine de rebondissements. Ouvert est mon esprit allant du sud au nord, de l'est à l'ouest, sur toute la terre, s'intéressant à chaque peuple, culture, irrémédiablement poussé vers cette envie de connaître l'autre, d'apprendre de ses richesses et, ensemble, d'aller toucher les étoiles en évitant le soleil et ses rayons transperçant nos simples cœurs de mortels. Pour terminer, un texte de Maud Thiria qui situe le lecteur à la frontière d'un monde, un monde qui s'effondre, qui s'éteint, un monde dans lequel la vocation du poète serait de recueillir une collection de mots, une collection qui commence avec un très joli titre, « Dans le désouvenir ». Tu es à la frontière d'un monde, dans l'estran étrangère, à pied fendu sur pierre tranchante. Tu es un être de rivage, de clivage, entre deux eaux, sur pierre chantante, aimant le perdant des fortes marées basses dans l'indice montant. Les trésors se découvrent à tes flancs, fossiles en creux des strates aux cavités des falaises, terre noire marneuse, t'enlisant dans le sillon poreux, t'évaporant dans le sillage nuageux. Tu es un être de valeuse, à dévorer des yeux toute ta peau, la beauté des roches qui tombent, à dévaler des mains sous tes maux, les écorchures de la matière. Tu es à la frontière d'un monde qui s'éteint et d'un autre qui dort. La pierre de l'avant et de l'après-toi, tu le chantes à chaque pas. Des galets aux roches écroulées par pans entiers, c'est tout un monde qui s'effondre. Et toi, minuscule, au milieu de ce qui restera ou pas, à pas, ventre à roche, les ongles accrochés aux parois, tu franchis les caps, traverses les anses et les portes, membres déployés, affranchis. Tu déchiffres les cartes sur les collines cabossées où fougères et bruyères te rappellent la luxuriance d'hier. Tu es la frontière infranchie, tu es le mystère indompté, à regarder de près ce qui s'éteint, de la beauté des pierres vivantes à la lumière presque morte des lucioles du rayon vert, Fata Morgana montant des eaux du rêve. À guetter les raretés d'un monde perdu, les éclosions d'un devenir abîmé, avec et parmi les recueilleurs d'aujourd'hui. Face au front de mer, sur le cordon du littoral qui t'aspire autant qu'il t'étreint, tu vas de l'avant vers le disparaissant. Dans le désouvenir, tu ramasses, entasses, ressasses une collection de pierres, une collection de mots, traces d'un musée du silence dont tu détiens encore la clé. Cette musique était issue d'un album du oudiste égyptien Hussein El Masri, intitulé « Entre Nil et Gange ». Là aussi, des univers différents se mêlent, celui du oud que vous avez entendu au départ, puis vient celui du sitar indien. Avant de vous quitter, je vous donne quelques informations sur le programme du Printemps des Poètes à Bourg, avec voix mêlée. Ce vendredi 18 mars, nous accueillons au Théâtre Arphonème le poète Joël Vernet pour une soirée rencontre autour de son œuvre. Si vous voulez avoir un aperçu de celle-ci, vous pouvez toujours écouter ou réécouter l'émission du mois dernier que je lui ai entièrement consacrée. Je vous conseille de réserver votre place soit par mail en envoyant un message à compagnie.arphoneme@gmail.com ou en appelant le 04 74 11 56 et en laissant dans les deux cas un message avec votre nom et le nombre de places que vous souhaitez réserver. Le lendemain, donc samedi 19 mars, nous vous donnons rendez-vous à la bibliothèque, à la médiathèque plutôt Vaillant, pour une déambulation poétique avec trois lectures rencontres. Le poète Joël Vernet, la poétesse Mélanie Leblanc et deux membres de Voix Mêlée. L'après-midi, à partir de 15h, on peut se retrouver à l'Office du tourisme, avenue Alsace-Lorraine, pour une flânerie poétique au cours de laquelle il sera question des frontières au sein de la ville, avec les commentaires avisés de Denise Robineau et des lectures de poèmes par les Voix Mêlées. Là aussi, vous pouvez réserver en appelant le 04 74 22 49 40. Quant à moi, je serai heureuse de vous retrouver le jeudi 20 avril pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt peut-être si vous choisissez de venir nous rencontrer dans les jours qui viennent lors de l'une ou l'autre des manifestations dont je viens de vous parler. Ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli.